J'aimerais parler sur le découragement d'Élie. Dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 1, il est écrit « Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes, c'est-à-dire les faux prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et dit « Lève-toi, mange !» car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Comme Élie, nous connaissons tous des phases de découragement dans la vie. Nous passons par des hauts, par des bas, par des moments où des portes se ferment, peut-être... Vous avez été mis de côté, trahi, rejeté, Dieu n'a pas répondu. Peut-être même vous avez envie de tout arrêter, de claquer la porte, de rentrer, de quitter le Seigneur. Et ça, ça démontre que nous sommes créés avec des émotions, avec des sentiments qui connaissent des hauts et des bas. Et on sait qu'Élie a connu des hauts et la présence de Dieu très intense dans sa vie, mais il a connu aussi des bas comme le découragement, la déprime, l'abattement le plus profond, où il avait envie de tout arrêter, où il demandait même à Dieu la mort. Ça montre les soubresauts de notre existence, et nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains, Dieu nous a créés ainsi. Et nous le remarquons encore aujourd'hui, certains sont même victimes, tellement ils se sont donnés, soit au travail, soit même dans leur famille, ou même à l'église, en se donnant sans compter, en fait, ils sont tombés dans la dépression, ou un burn-out, où ils ont perdu tout repère, une rupture émotionnelle, ils se sont trouvés fatigués, lassés, envie de tout abandonner, ils ne pouvaient plus rien faire, parce que nous sommes des créatures humaines, fragiles, et on a une nature humaine qui a besoin d'équilibre, elle a besoin de certains repères, et si nous les négligeons, eh bien nous sombrons, nous sommes humains. Donc cela nécessite pour nous d'adopter de bonnes attitudes, et toujours de nous replonger, de nous recentrer en Dieu, de chercher dans sa parole, de prier, et puis d'avoir une vie équilibrée, une vie où tout n'est pas basé sur des activités, toujours courir à gauche, à droite, et on n'a plus de temps pour soi, et à ce moment-là, on s'écroule à cause de la pression qu'on s'est mise sur nous-mêmes. Au verset 2, tout d'abord, nous voyons dans ce texte combien les paroles ont une influence sur notre vie, les paroles de Jézabel. Jézabel, c'est la reine du pays, et elle fait dire à Achab, au verset 2, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Elle parle des faux prophètes que Élie a fait tuer suite au chapitre précédent, le chapitre 18. Mais qui était cette femme, Jézabel ? Cette femme Jézabel, c'était la reine du pays d'Israël, la femme d'Achab. Et surtout, quand on étudie un petit peu sa vie, on voit des antécédents spirituels très néfastes. Fille d'Ethbaal, Ethbaal, donc le roi de Tyr et de Sidon, qui est une nation païenne au nord d'Israël, mais surtout, Ethbaal, ça veut dire « avec Baal » ou « soutien de Baal », donc le soutien de l'idolâtrie. Elle est donc la fille du roi qui soutient l'idolâtrie. Et puis, il était aussi prêtre d'Astarté, c'est une autre, une déesse qui poussait les gens à la débauche. Donc, vous voyez, cette fille, cette femme a un héritage spirituel mauvais. Elle va donc épouser Akab, le roi d'Israël. Et elle était animée d'un esprit de domination, puisque c'était elle qui commandait son mari. Elle commandait son mari à tel point que quand il y avait des décisions à prendre, elle prenait le cachet du roi, elle signait en son nom, elle faisait des choses en fait qui n'étaient pas de son ressort. On le voit par exemple quand il y a eu un certain Naboth qui avait une vigne, le roi Akab voulait cette vigne, Naboth refuse de lui donner cette vigne et il rentre à la maison tout déconfit, tout dépité, il se plaint de cette situation et Jézabel, sa femme, réagit et lui dit « mais c'est pas toi le roi en Israël, tu peux faire ce que tu veux ». Alors elle dit « laisse-moi faire » et puis c'est elle qui prend tout en main, elle va prendre donc l'autorité du roi, elle va signer à la place du roi, elle va faire des cachets avec des décrets à la place d'Akab, elle va envoyer tout cela dans la ville de Naboth aux responsables pour leur dire de convoquer un jeûne, de placer Naboth donc à la tête de ce jeûne et de fomenter contre lui des accusations et ainsi de le lapider. Donc elle a tout manigancé. Elle a envoyé ça aux responsables de la ville. Naboth a été exécuté. Et puis, elle est retournée vers Akab en disant, ben voilà, la chose est accomplie, tu peux maintenant prendre la vigne de Naboth. On voit donc qu'elle est méchante, elle a un fort caractère, elle est dominatrice, elle a imposé dans tout l'empire d'Israël le culte de Baal. Et c'est une femme donc qui fait tuer les prophètes de l'Éternel. Voilà où on en est. Voilà comment le pays est dirigé par Akab, qui est un mauvais roi, qui est un roi qui ne suit pas, qui ne marche pas avec Dieu, et une femme qui s'appelle Jézabel, qui est attachée aux idoles et qui fait le mal comme son mari. Donc, elle fait dire à Élie qu'il va mourir, de même que Élie, dans le chapitre 18, a mis à mort tous les faux prophètes de Baal, eh bien, cette femme lui fait dire par un serviteur, « Tu verras demain, que toi, ce que tu as fait à mes serviteurs de Baal, tu vivras la même chose, c'est-à-dire tu mourras. » Ça, c'est l'image pour nous de l'œuvre de l'ennemi. L'œuvre de l'ennemi qui veut vous faire peur. Jésus dit qu'il vient pour dérober, égorger et détruire. Il l'appelle le diable. Et vous verrez parfois des Jézabel surgir quand vous voulez faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas de Christ. Ils vont tenter de vous menacer, ils vont tenter de vous faire peur, mais vous devez discerner que derrière cette personne, il y a une puissance spirituelle et cette puissance est animée par le malin. C'est ainsi qu'était Jézabel. En suivant Jésus-Christ, Colossiens chapitre 1 verset 12, Paul dit que nous avons changé de camp. Rendez grâce au Père, il dit, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Donc nous avons connu la puissance des ténèbres, nous étions dans l'aveuglement, nous étions séparés de Christ et nous avons été arrachés de ce royaume de ténèbres pour être maintenant dans le royaume de Dieu. Et c'est là qu'il nous faut du discernement pour ne pas retomber dans l'esclavage. Même dans le royaume de Dieu, nous sommes attaqués. On peut être attaqué dans les pensées. Ici, Élie, c'est vraiment un serviteur de Dieu, il est vraiment dans le royaume de Dieu. On pourrait dire que c'est un croyant, mais il est attaqué dans ses pensées. Il commence à douter de la situation. On peut avoir des tentations, un petit peu comme Joseph, qui a été tenté par la femme de Potiphar pour coucher avec lui, et il a rejeté cette tentation. Il a été tenté alors qu'il était intègre, alors qu'il marchait avec Dieu. Il aurait pu céder, il aurait pu chuter, mais il s'est préservé en fuyant. Et puis, on sera peut-être persécuté aussi dans le foyer, même si on est chrétien, peut-être par un mari qui n'est pas chrétien, ou dans un foyer où il y a de la rébellion, peut-être un enfant qui ne veut pas de Dieu, et des attaques continuelles spirituelles. J'ai lu il y a quelques années un témoignage d'une femme anglaise qui s'appelle Maud Tizard, et qui a découvert le Seigneur, elle s'est convertie par le moyen d'un témoignage, elle a accepté Jésus dans sa vie, sauf que son mari ne voulait pas de Dieu. Il ne voulait pas entendre parler de Dieu, il ne voulait pas de Dieu. Et à un moment donné, elle voulait avancer, elle voulait aller à l'église, elle voulait marcher avec Dieu. eh bien, son mari lui a donné un ultimatum et il lui a dit, bien, soit tu suis ton Dieu, mais tu restes plus dans le foyer, ce sera un divorce, ou soit tu arrêtes avec ton Dieu et on continue ensemble. Et elle a privilégié de sauvegarder son couple tout en maintenant sa relation avec Dieu, en cachette, en allant déposer les enfants à l'école. Elle trouvait des chrétiennes qui allaient à l'église, elle parlait du Seigneur, elle entretenait sa foi de différentes manières. Et jusqu'au jour où, bien, le mari s'est assoupli, il y a eu une œuvre qui s'est faite dans le temps. Alors, elle le raconte, ça s'est fait sur des années, tout ce que je vous dis en quelques minutes. Ça s'est fait quand même dans le temps, c'était dur, c'était long, c'était difficile. Mais il s'est assoupli et elle a pu aller à l'église, elle s'est faite baptiser. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que quand elle est allée à l'église, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, eh bien, elle est revenue un dimanche matin et son mari lui a dit, ben moi, je veux venir dans l'église où tu vas. Et comment s'est passé ce changement? Eh bien, elle a su par la suite que quand elle allait à l'église, son mari en cachette, lui, il allait chercher dans la Bible ce que sa femme lisait. Mais il n'en parlait pas à sa femme. Et le cheminement spirituel s'est fait dans son cœur sans que sa femme le sache. Ça s'est fait sur des mois, peut-être sur des années. Et à un moment donné, l'œuvre de Dieu s'est faite dans son cœur et il a été prêt à aller à l'église. Il s'est converti et il s'est fait baptiser et aujourd'hui, ils servent le Seigneur tous les deux comme un couple engagé. Alors, ça paraissait très mal engagé, ça paraissait mal parti, mais il ne faut pas se laisser déstabiliser. Il y a des persécutions, il y a des pensées négatives, il y a des tentations, mais le Seigneur règne et il est au-dessus de toutes ces difficultés. Apprenons à lui faire confiance et à tenir bon dans la durée. Le nom de Jézabel est repris d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 20, comme une femme qui, dans l'Église, va pousser les personnes au péché. Apocalypse chapitre 2, verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, » donc c'est l'église de Thyatire, « c'est que tu laisses la femme Jézabel. » Alors on retrouve ce nom très symbolique en référence à cette Jézabel de l'Ancien Testament. Alors est-ce que c'était son vrai nom ou est-ce que Paul prend le nom de Jézabel comme un patronyme pour indiquer son identité spirituelle qui est mauvaise? On ne sait pas, mais en tout cas, il l'appelle comme ça. C'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette femme, donc on est plus de 1000 ans après l'histoire de cette Jézabel, eh bien, de l'Ancien Testament, eh bien, on voit que elle a les mêmes caractéristiques que la première Jézabel. Elle est animée du même esprit pour séduire les croyants, pour les entraîner dans le péché. Elle enseignait la doctrine des Nicolaïtes, c'est-à-dire, c'est l'équivalent du Baal de la Jézabel de l'Ancien Testament, c'est-à-dire pousser à l'idolâtrie, pousser à la débauche, pousser aux choses mauvaises. Et aujourd'hui encore, eh bien, il y a des Jézabels sur le plan spirituel qui se lèvent, qui se dressent, ça peut être des hommes ou des femmes. Ce sont des personnes animées d'un mauvais esprit pour détourner les vrais croyants de la sainteté, de la pureté, de la sanctification, de l'œuvre de Dieu. On trouve cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. « La volonté de Dieu pour chaque chrétien, c'est la sanctification. » Et les Jézabels, c'est l'opposé. C'est pousser les chrétiens à la révolte, au péché, à l'idolâtrie, à la débauche. Et donc, c'est spirituellement, c'est un esprit opposé à l'esprit de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. » Rappelez-vous qu'on a lu juste avant que cette Jézabel, elle poussait justement les croyants à la débauche, à vivre dans le mal, dans le péché. « C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, sans vous livrer aux convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Voilà la voie que nous devons suivre, elle est bien claire, c'est la voie de l'esprit, c'est ce que Dieu veut pour notre vie, mais certains vont se lever avec un autre esprit, l'esprit de Jézabel qui agit toujours dans ce monde et qui veut détourner les vrais croyants de la sanctification. Donc cette Jézabel, nous avons bien défini sa situation, c'est la femme d'Akab. Elle, par ses paroles, elle arrive à infléchir le cœur d'Akab. Et au verset 3, la décision d'Élie, elle arrive à infléchir plutôt le cœur d'Élie. Au verset 3, Élie voyant cela, donc en fait c'est qu'il a entendu ces paroles, les paroles de Jézabel, mais en fait il les a visualisées dans son esprit, il s'est vu mort, eh bien il a fui. Et là on voit un contraste saisissant entre l'Élie du chapitre 18, qui prie devant 450 faux prophètes de Baal et d'Astarté pour que le feu descende sur l'autel qu'il avait fait avec l'animal qu'il avait mis dessus, et il voit la main de Dieu, et là il vit vraiment dans la victoire, il sait que l'Éternel est vivant, il a une foi audacieuse, et dans cet élan de foi, il fait exécuter tous les faux prophètes, enfin il vit vraiment dans la victoire, au chapitre 18. Il vit dans le miraculeux, il croit que tout ce que Dieu dit, il peut le faire, enfin il n'y a pas de doute là dans son esprit, on dirait que rien ni personne ne peut l'arrêter, il est plus que vainqueur, il est vraiment dans la dimension de la foi. Mais il est aussi de la même nature que nous et on sait que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et lorsqu'il prête attention aux paroles de Jézabel, lorsqu'il visualise ce qu'elle dit, en fait les paroles de Jézabel sont rentrées dans son cœur, eh bien à ce moment-là, il n'est plus dans le terrain de la foi, il est dans le terrain du doute. Et il va avoir peur. Et il a eu peur pour sa vie. C'est au verset 3, il a fui pour sauver sa vie. Est-ce qu'il ne sait pas que Dieu est tout-puissant pour le garder ? Il le sait, il y croit, mais il croit maintenant davantage les paroles de Jézabel que les paroles de Dieu. Et comme il est de la même nature que nous, il est un être humain, son cœur chavire, la peur l'envahit et il fuit pour sauver sa vie. La chair est faible. Pourquoi Élie a-t-il chuté aussi vite ? Eh bien, tout ce que nous laissons rentrer par nos yeux vient dans notre cœur et peut être une occasion de chute pour nous. On le voit avec Lot, il a levé les yeux vers la plaine du Jourdain, ses yeux l'ont attiré vers Sodome et Gomorre, ça a été une occasion de chute. La femme de Lot, elle a regardé en arrière, les anges avaient dit « ne vous retournez pas, ne regardez pas en arrière », mais ses yeux ont été une occasion de chute, elle a été transformée en statue de sel. Pierre aussi, qui avait réussi à marcher sur l'eau, en regardant la tempête, ses yeux ont été une occasion de chute, il a eu peur. Il voyait bien Jésus, mais il a regardé la tempête plus forte que Jésus et il a coulé. Et Jésus nous prévient, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Les yeux sont souvent une occasion de chute. Et notre vision a une conséquence sur notre foi. C'est-à-dire que ce qu'Élie voit dans son esprit va le faire douter. Donc ça a une conséquence importante. C'est toujours Élie le prophète de Dieu, celui qui a prier pour le miracle, qui a vu la main de Dieu, qui vivait dans la puissance du Saint-Esprit, mais qui a laissé les paroles de l'ennemi rentrer dans son cœur et il les a vues plus grandes que la puissance de Dieu, eh bien, si nous ne marchons plus par la foi, si les paroles de l'ennemi ou si les paroles de découragement prennent plus de poids que la parole de Dieu, eh bien, à un moment donné, nous ne marcherons plus parce que cela va nous décourager, un petit peu comme Élie. Notre nature charnelle aime mieux marcher par la vue, mais Dieu nous engage à marcher par la foi et à croire que Dieu va agir. C'est toujours plus facile de marcher par la vue parce qu'on aime bien s'appuyer sur des choses que l'on voit. Mais marcher par la foi, c'est croire sans rien voir. Alors, c'est pas facile d'avancer quand vous ne voyez pas, mais pire quand la situation se dégrade. Mais Dieu nous a pas dit de marcher uniquement parce que vous allez voir un petit signe encourageant. Il a dit de lui faire confiance, même si les vents sont contraires. Donc, continuons à marcher dans la foi. Élie va donc partir à Beersheba, dit le texte, c'est-à-dire au sud de Juda. Il était au nord, donc ça fait 160 kilomètres de marche depuis Jisréel où il était, et plusieurs jours de marche avec ses serviteurs, son serviteur, qu'il a laissé là au bout d'un moment, au bout de 160 kilomètres, donc à Beersheba, il a laissé son serviteur, et la Bible dit qu'il a continué la marche tout seul. Ça veut dire que dans sa fuite, il avait encore de l'énergie pour marcher tout seul dans le désert, mais pour aller dans la mauvaise direction, c'est-à-dire, c'était pas la volonté de Dieu pour sa vie. Et c'est étonnant de voir combien nous pouvons avoir de l'énergie quand il s'agit d'aller dans les mauvais chemins, les chemins que Dieu veut pas, des chemins qui sont contraires à ses plans, à sa volonté. Et il y va tout seul, il y va avec ses forces, et puis au bout d'un moment, ses forces vont diminuer. Alors c'est étonnant, et c'est le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que vous aurez toujours de la force, vous aurez toujours de l'énergie pour aller dans le mauvais chemin, mais quand il s'agit de revenir à Dieu, tout d'un coup, on est fatigué, on n'a pas envie, on n'a plus l'énergie, alors que c'est ce qu'il faudrait faire. Et souvent, c'est ça le contraste. C'est qu'on a de la force pour les mauvaises choses, mais on n'a pas de force pour les bonnes. Alors prions le Seigneur, quand on est dans cette situation, de dire « Seigneur, donne-moi la force pour faire les choses de Dieu, pour revenir dans ta présence, pour revenir dans ton chemin, parce que je ne veux pas continuer dans le chemin où l'ennemi m'a envoyé, loin de ta volonté. » Ça, c'était le deuxième élément. Élie donc voit les paroles de Jézabel comme plus puissantes que les paroles de Dieu. Le troisième élément se trouve au verset 4. C'est maintenant les paroles de découragement qui sortent de la bouche d'Élie. Et là, vous trouvez un principe spirituel. C'est que si vous laissez rentrer les paroles du doute de la Jézabel dans votre cœur, vous ne tarderez pas à ressortir des paroles de découragement vous-même. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Voilà, il est complètement découragé et ses paroles sont des paroles de découragement, d'abattement. Tout ça, c'est le processus du découragement qui est dans son cœur. C'est un travail de destruction. Élie a laissé rentrer ses paroles mauvaises dans son cœur et maintenant il les ressort, il demande la mort. Son corps est affaibli, il est couché par terre, voilà, il se laisse dominer. Et si vous laissez rentrer des paroles mauvaises, si vous laissez rentrer des paroles de condamnation dans votre esprit, si vous les visualisez, bien vous ne tarderez pas vous-même à dire « c'est vrai, je ne suis pas meilleur que mes pères, je ne m'en sortirai pas dans la vie ». Et il croit ces paroles et finalement il finit par les dire. Et en fait, les malédictions qui ont été prononcées sur sa vie par cette femme, il est en train de les prononcer sur sa propre vie. Il est en train de dire la mort. Jézabel avait prononcé des paroles de mort. Eh bien, il est en train de demander la mort à Dieu. Ça prouve bien que les paroles de l'ennemi qui sont rentrées en lui, maintenant, c'est lui qui les dit pour sa propre vie. Alors, ce n'est pas l'extérieur qu'il faut changer, mais l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer de ne plus dire de mal. Mais le problème, c'est le cœur. Et souvent, c'est plus fort que nous. Si on dit du mal, c'est plus fort que nous parce que c'est dans le cœur. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais béni soit le Seigneur qui peut changer notre cœur et nous donner un cœur de paix, un cœur de joie et un cœur d'amour pour avoir des paroles inspirées, des paroles selon l'Esprit. Mais si vous n'avez pas le cœur changé, comment allez-vous dire les paroles de Dieu? Il faut que Dieu intervienne dans votre cœur. Donc comment faire pour changer l'intérieur? On a un conseil dans 1 Pierre chapitre 5 et verset 7. Comme Élie, il était bien chargé, peut-être c'est le cas de quelqu'un ce soir, par des situations très lourdes, très difficiles, vous les avez vues en esprit et maintenant vous êtes découragé. Eh bien, 1 Pierre 5, 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voilà une démarche qu'Élie aurait pu choisir, de se décharger de ce fardeau, de ces paroles qui sont rentrées dans son cœur, de ne pas les ruminer, de ne pas les entretenir, mais de les décharger auprès du Seigneur afin de recevoir sa paix et que Dieu prenne soin de lui. Alors il s'est fait beaucoup de soucis, il s'est beaucoup angoissé, alors que vraiment il doit les déposer. Et puis le deuxième élément pour nous qui sommes chrétiens, c'est de nous laisser visiter par le Saint-Esprit, une fois qu'on a déposé nos soucis, qui va nous fortifier de l'intérieur, nous remplir le cœur de sa paix, de sa joie. Et ça va avoir des répercussions sur nos paroles à l'extérieur. Ce sont des paroles d'encouragement, des paroles de paix. Donc c'est ça, c'est notre part, c'est entretenir notre cœur par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, par des paroles de Dieu, par des versets de la Bible. Et tout cela fortifie notre cœur. Et ensuite, vous verrez que vos paroles seront pleines de grâce et de sel, comme dit la parole. Au contraire, Dieu veut remplir notre cœur de son message. Comme il dit à Élie ici, tu ne t'en sortiras pas, tu ne pourras pas te relever, tu vas rester couché, tu n'en vaux rien, tu es un mauvais chrétien, tu es à terre, tu ne te relèveras pas. Ça, c'est toutes les semences des paroles de l'ennemi, sur Élie comme sur nous. Mais je remarque que Jésus a d'autres paroles. Et c'est ces paroles-là qu'il nous faut capter. Un jour, il y a quatre hommes qui ont voulu apporter un paralytique dans la présence de Jésus, mais il y avait tellement de monde dans la maison où était Jésus pour prêcher qu'ils ne pouvaient pas rentrer par la porte. Alors, ils ne se sont pas découragés, ils sont montés sur le toit, ils ont découvert le toit et ils ont fait descendre le paralytique dans la présence de Jésus. Et Jésus, voyant leur foi, il a dit au paralytique, donc qui ne pouvait pas marcher depuis tellement d'années, il lui a dit simplement une parole, mais c'est une autre parole. Il lui a pas dit « reste couché à terre, tu t'en sortiras pas, ça marchera jamais dans la vie pour toi ». Le premier mot qu'il lui dit, c'est « lève-toi ». C'est une autre parole, c'est la parole de Dieu. « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Ça, c'est pas la parole de Jézabel, c'est pas la parole du diable, c'est pas la parole de l'ennemi, c'est la parole de Christ. Et cette parole est rentrée dans le cœur de ce paralytique, il l'a saisi par la foi, il a cru. En fait, il a cru davantage les paroles de Jésus. « Lève-toi, prends ton lit, marche !» Des paroles inspirées, des paroles divines. Il les a cru davantage que les paroles du diable qui lui disaient « tu seras toujours paralytique, tu t'en sortiras jamais dans la vie, tu seras toujours dépendant des autres, c'est pas la peine d'espérer. » Et à un moment donné, c'est à nous de faire ce choix de croire davantage les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, plutôt que les paroles du malin. Cet homme, donc, a reçu cette parole dans la foi, il l'a saisie comme une vérité, et il s'est levé, et il a porté son lit, et il est sorti de ce lieu avec cette victoire. C'était impossible sur le plan médical, mais ce qui est impossible aux hommes, eh bien, est toujours possible à Dieu, parce que Dieu n'est pas limité par nos faibles moyens. J'arrive au quatrième élément, c'est au verset 5. C'est maintenant la nourriture de Dieu. L'ange va venir auprès d'Élie avec un gâteau et une cruche d'eau. Et lorsque Dieu a vu Élie dans le découragement, il ne l'a pas laissé sans nourriture. Il est venu le fortifier avec ce qui était bon pour lui, c'est-à-dire un gâteau. Il avait besoin de se fortifier avec un aliment qui allait le relever. Et ce n'était pas n'importe quoi, c'était un petit gâteau, mais qui venait de Dieu. Donc, une nourriture très, très spéciale. Cette nourriture, je dirais, c'est plus qu'un simple gâteau, c'était la nourriture de Dieu pour sa vie et pour son âme. Oui, pour son corps, parce qu'il en avait besoin, mais surtout pour le ressourcer intérieurement, parce que la parole de Dieu va faire une œuvre en vous, qui va vous restaurer, qui va vous fortifier intérieurement. C'est meilleur qu'un bon repas, c'est la parole de Dieu qui nourrit l'âme. Ce dont nous avons le plus besoin, d'ailleurs, c'est cette nourriture de l'âme. Ah oui, parce que vous pouvez très bien manger, mais si votre cœur est sec, si votre âme est vide, vous aurez le ventre plein, mais votre âme sera toujours avide et assoiffée d'autre chose. Les disciples, un jour, ont été très étonnés de voir que Jésus discutait avec une femme samaritaine au bord d'un puits, puis il ne mangeait pas. Et il passait son temps à parler avec cette femme, et il lui parlait du royaume de Dieu, il lui parlait des choses spirituelles, et le temps passait et ils ne mangeaient pas. Alors la Bible dit qu'ils étaient étonnés de voir Jésus parler avec cette femme et sans manger, et au bout d'un moment ils l'ont interrompu et lui ont dit « Mais maître, mange maintenant, mange !» Ça veut dire arrête de parler, arrête de donner cette nourriture spirituelle, ils n'en avaient pas trop conscience, mais mange la nourriture, le pain pour le corps. Et Jésus répond, Jean 4, 32, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Il y a une autre nourriture, vous ne la trouverez pas dans les restaurants de ce monde, vous ne la trouverez pas dans les boulangeries avec les pains, mais vous la trouverez dans la présence de Dieu avec sa parole. Ça, c'est l'autre nourriture qui va fortifier notre âme. La nourriture de Dieu, d'ailleurs le texte dit qu'avec cette nourriture, au verset 8, « Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, ce qui est totalement impossible humainement, mais parce qu'il avait absorbé la nourriture de Dieu, entre parenthèses, entre là où il est et Horeb, il y a 360 kilomètres. Donc c'était impossible humainement parlant, mais si vous avez pris la nourriture de Dieu, ce qui est impossible devient possible. Et là, à ce moment-là, eh bien, il fait cette œuvre. Une des plus grandes causes de l'affaiblissement des chrétiens, c'est le manque de nourriture de la parole de Dieu. Quand on n'est pas discipliné, quand on ne se nourrit pas quotidiennement de la parole, en méditant la parole chaque jour, on s'affaiblit sur le plan spirituel. Et quand on est faible sur le plan spirituel, les paroles de Jézabel deviennent énormes dans notre esprit, elles deviennent puissantes comme des racines, et on est découragé, on est abattu, on baisse les bras. Ça, c'est notre part, frères et sœurs. Comme Élie, nous avons besoin de ce pain ou ce gâteau, c'est-à-dire cette nourriture spirituelle, cette eau qui vient d'en haut. C'est ça qu'il a relevé, et là, il a eu des forces nouvelles, et il a repris la marche. En conclusion, on voit bien que le découragement, personne n'est à l'abri. On ne peut pas dire, moi ça y est, j'ai atteint un certain niveau, je suis chrétien, moi je ne serai jamais découragé. On le sait, ce n'est pas possible, on est humain. Élie était un homme de la même nature que nous, dit la Bible. Il a eu ses moments de victoire, il a eu aussi ses défaites, il a eu ses découragements. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de voir comment on peut sortir du découragement quand on est tombé là-dedans, quand on est dans ce désert, on a fait une journée de marche, on est seul, on demande à Dieu la mort, on est dans un contexte de mort. En fait, les paroles de Jézabel dominent dans notre esprit. Comment on peut sortir de ce cercle vicieux? Eh bien, en venant dans la présence de Dieu, en prenant ce pain, c'est-à-dire ce petit gâteau qui vient d'en haut, cette eau, cette cruche qui a été apportée par l'ange, et qui va nous donner cette force intérieure pour nous permettre de nous relever. Avec cette force, il a pu faire beaucoup plus. Et même l'ange, quand il est venu, lui a dit cette vérité. Élie, il faut que tu manges ce pain-là, ce gâteau qui vient d'en haut, cette eau-là qui vient de Dieu, parce qu'il lui a dit, le chemin qui est devant toi, il est trop long pour toi. Ça veut dire que même si vous êtes chrétien, et vous essayez de marcher le chemin que Dieu a pour vous tout seul, sans la force de Dieu, vous ne pourrez pas. Il est trop long. Il est impossible de le réaliser par nous-mêmes. Mais par contre, si vous prenez régulièrement, j'allais dire chaque jour, ce pain, cette nourriture, cette eau qui vient d'en haut, eh bien, la force spirituelle va vous accompagner tout au long de ce chemin. On va prier quelques instants. Merci encore, Seigneur, pour ta parole, pour ce prophète Élie que tu as suscité pour être un témoin en son temps, qui a vacillé, qui a connu le découragement, mais combien, Seigneur, par son passage difficile, nous sommes enseignés à prendre les bonnes dispositions, à ne pas laisser les paroles de l'ennemi, les paroles de Jézabel, les paroles de l'adversaire rentrer dans notre esprit, dans notre cœur, pour les voir encore plus grandes que la parole de Dieu. Mais nous voulons, au nom de Jésus, proclamer que ta parole est au-dessus. Nous voulons nourrir notre cœur, notre âme, notre esprit des promesses de la parole de Dieu. Nous voulons repasser, Seigneur, toutes tes promesses dans notre cœur et proclamer que ta parole est toujours la vérité, que tu as toujours raison, que tu es au-dessus des rois, au-dessus des reines comme Jézabel, au-dessus des puissances, des principautés, de tous ces esprits qui agissent dans ce monde, et que tu nous donnes la force de reprendre la route, de faire ce chemin qui est trop long pour nous. Et nous ne voulons pas, Seigneur, marcher par nos forces, par nos efforts. Nous ne voulons pas avancer par nos capacités. Mais ce soir, nous te prions de nous renouveler, de nous fortifier dans ta présence, afin de pouvoir continuer la marche en nous appuyant sur tes promesses. Oui, Seigneur, tu vois les faiblesses, tu vois les difficultés. Mais Jésus, nous voulons nous rappeler que tu es tout-puissant et que tu es vainqueur. Merci, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Nous nous attendons à ton action. Dirige ces moments de prière pour ta seule gloire. Amen.